Bonjour à chacun et à chacune. C'est bon là, oui. Oui, c'est bon. C'est une vraie joie au cœur de l'été. Je me dis ce matin, peut-être, ça va être, les rangs vont être un peu clairsemés. Ils le sont, mais on voit des visiteurs, des frères et des sœurs, certains qui sont revenus de vacances, d'autres pas encore partis. Que chacun, et je crois que ça a bien commencé ce matin, se sente le bienvenu. J'étais absent un petit instant parce que ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, aujourd'hui ça m'est arrivé. J'avais préparé ce message et puis une petite distraction ce matin, j'ai oublié de le prendre. Donc, j'ai eu un petit combat, je me suis dit, bon, je vais faire sans. Bon, bah écoutez, je reconnais mes limites, j'ai besoin de quelques repères, même si le Seigneur nous aide et nous conduit. Nous proclamons l'amour de Dieu, et nous avons bien raison. Ça a été rappelé, je ne sais plus si c'est par Jean-Luc ou Jean-François, dans la prière, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces versets qu'on connaît, qui est merveilleux pour l'annonce de l'Évangile, pour cette assurance de ce que Jésus a fait. Et puis, nous voulons obéir au double commandement qui nous a été rappelé dimanche dernier, « Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Il nous a été aussi rappelé dimanche dernier que « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». Et avec cela, bien souvent, nous voilà partis à aimer, à essayer d'aimer nos frères, à essayer d'aimer aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai employé un terme, à compassionner avec tous, et c'est bien. Et c'est bien compassionner notamment avec nos frères et sœurs qui traversent parfois des épreuves terribles, parce que oui, des chrétiens traversent des épreuves. Je ne sais pas si certains n'étaient pas au courant, peut-être on vous a dit, il n'y a pas de problème, venez et tout va s'arranger. Oui, tout s'arrange parce qu'on a la vie éternelle, mais il y a quelques épreuves sur le parcours. La promesse de Jésus est certaine. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, y compris dans vos difficultés, surtout dans nos difficultés. Et pourtant, malgré notre compassion, malgré nos efforts pour aimer, et que c'est une bonne chose, parfois nous voyons des situations qui durent et le salut et la délivrance ne viennent pas. Alors ce matin, je voudrais que nous examinions de plus près une des dimensions de l'œuvre de la croix. Je ne vais pas traiter tout le sujet. C'est la satisfaction de la justice de Dieu. Parce qu'on parle de la grâce, nous soulignons la réconciliation avec le Père par le Fils, dont nous sommes bénéficiaires lorsque nous saisissons par grâce la grâce qui nous est offerte. Mais je voudrais qu'on considère ce matin que cette grâce, cette réconciliation, elle est possible parce que la justice divine a été satisfaite. Et cela est un fait qui est difficile à accepter pour l'homme ou la femme naturelle qui subsiste par moi en nous. Pourtant, l'auteur de la lettre aux Hébreux confirme « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon ». Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Où est la douce tendresse, etc. Et le titre de mon message, c'est le scandale de la croix, finalement. Parce que comment cette grâce, cet amour que nous proclamons et puis que nous vivons et dont nous sommes au bénéfice, comment finalement accepter ce sacrifice, quoi. Un innocent est mort dans des conditions épouvantables, avec des souffrances morales, spirituelles, physiques à la croix. Et c'est un scandale. Et c'est un scandale pour le monde. Je vous invite, on va lire des textes qu'on ne lit pas très souvent dans Lévitique 16. Alors, le Lévitique nous parle du sacerdoce, précisément Lévitique, qui a été ordonné par Dieu, mais dont je veux tout de suite dire et rappeler, si des gens étaient attirés à vivre les ordonnances de l'Ancien Testament, que ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple, comme un pédagogue, et c'est pour ça que je vais prendre ce texte, parce qu'il nous enseigne des choses pour nous conduire à Christ. On est bien d'accord, on pose ça tout de suite. Ne repartez pas en voulant sacrifier des moutons, des boucs, etc. Je le dis parce qu'on voit tellement de choses aujourd'hui, de retour à l'ancien sacerdoce et tout un tas d'exercices qui sont emportés par la venue de Jésus-Christ, que je précise, nous allons aller voir ces textes parce qu'ils nous enseignent. Ils nous parlent de cette réalité centrale, Jésus-Christ crucifié. Alors, Lévitique 16, nous allons lire les versets 15 à 22. C'est les ordonnances qui sont données à Moïse par le Seigneur lui-même pour mettre en place tout le sacerdoce lévitique. Et donc, il est expliqué avant que Aaron, en tant que souverain sacrificateur, devra lui-même se purifier, puisque c'était qu'un homme comme nous, et il avait besoin de se purifier avant d'offrir des sacrifices pour le peuple. Et c'est ce que nous allons voir, ces sacrifices pour le peuple, au verset 15. Un petit peu avant, il est dit qu'il devra prendre deux boucs. Nous allons voir le sort de ces deux boucs. Lévitique 16, verset 15. « Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquels ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, il fera l'expiation pour l'autel, il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le deuxième bouc, le bouc vivant. Le premier a été sacrifié et tout son sang a coulé. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. » Ce texte nous montre, je dirais, deux temps. D'abord, l'expiation avec le sang sur le propitiatoire. Alors le propitiatoire, c'était le couvercle, propitiatoire, ça veut dire couvercle, couverture, quelque chose qui cache et qui couvre. Il fait référence à la fois au lieu dans le tabernacle et à l'acte, à savoir le sang répandu. Le sang, nous le savons, c'est la vie. Si le sang est répandu, c'est que celui dont il provient est mort. Nous invoquons souvent le sang de Jésus. Il nous dit finalement qu'il a livré tout son sang, c'est-à-dire qu'il a livré toute sa vie. Et donc, il est mort. Un sacrifice a été accompli pour que Dieu soit favorable, que Dieu soit propice. Notez que, je ne peux pas tout détailler ces textes, mais que le propitiatoire se situe dans l'Ancien Testament au-dessus de l'arche, qui est dans le tabernacle, dans le Saint des Saints. Cette arche, qui était faite de bois d'acacia, avec certaines dimensions, grosso modo 50 sur 1 mètre sur 1 mètre 50, je crois, de mémoire. Et au-dessus de cette arche, que le peuple portait quand il se déplaçait, il y avait le propitiatoire sur lequel était répandu le sang, et sur ce propitiatoire, il y avait deux chérubins qui couvrait l'ensemble. Ça veut dire que le propitiatoire, il est au-dessus de l'arche. Et qu'est-ce qui se trouve dans l'arche ? Mais il se trouve notamment les tables de la loi. Cette loi dont Paul nous dit qu'elle est sainte et qui nous donne les commandements justes et bons, mais que l'homme n'a pu accomplir. Et finalement, cette loi, puisque l'homme n'a pu l'accomplir, elle le condamne. Cette loi par laquelle le péché est révélé. Alors le sang répandu sur le propitiatoire présente à Dieu le sacrifice et attend la réponse de Dieu, cette réponse favorable. L'agrément de ce sacrifice d'expiation est obtenu par l'obéissance aux ordonnances fixées par Dieu lui-même. Ici, au niveau du sacerdoce lévitique, c'est l'ombre encore des choses à venir, hein, sachant qu'elles sont une pédagogie, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous donner à saisir l'œuvre de Christ. C'est-à-dire que le propitiatoire, il couvre la loi, et cette loi que nous ne pouvons accomplir, le sang qui est répandu sur le propitiatoire, va nous libérer, va être favorable. Finalement, on dit, ben, on ne peut pas. Mais maintenant, par ce sacrifice, on va quand même avoir accès à Dieu. Donc je vous disais également que sur le propitiatoire qui couvre l'arche figuraient deux chérubins, ces anges puissants, comme témoins de ce sacrifice qui vient satisfaire la justice divine. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, les chérubins, mais c'est aussi des chérubins que Dieu a placés à la porte de l'Éden lorsqu'il a chassé Adam et Ève. Ces chérubins étaient là pour interdire l'accès de ce jardin merveilleux où l'homme avait communion avec Dieu. Mais le péché, la désobéissance, la révolte, l'indépendance manifestée a amené cette séparation. Et les chérubins, c'est une décision de Dieu, a mis ces chérubins pour que l'homme qui avait accédé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'ait plus accès, cette fois-ci, à l'arbre de vie qui lui était destiné. Donc je pense qu'il y a là, dans la présence de ces chérubins au-dessus de l'arche, quelque chose qui nous annonce que ce chemin va être réouvert. Les chérubins sont témoins de la valeur du sacrifice du sang répandu. Donc d'abord, l'expiation avec le sang qui est nécessaire pour satisfaire la justice divine. C'est l'ordonnance de Dieu. Et dans le texte, nous voyons bien, il y a d'abord ce bouc qui est sacrifié, et puis il y a un deuxième temps, ce que j'appellerais le pardon des péchés, à travers l'éloignement de ces transgressions. L'oubli, si vous voulez, par Dieu. Mais cet oubli par Dieu, il n'est pas comme ça, « Oh, ben, je vais oublier. » Non. Beaucoup de textes nous rappellent bien que Dieu ne tient pas le pécheur pour innocent. Mais il a pourvu. Donc d'abord l'expiation avec le sang, ensuite le pardon des péchés et l'éloignement des transgressions. C'est un des sens du bouc, qu'on appelle des fois le bouc émissaire. Vous savez, le bouc émissaire, c'est une expression, beaucoup d'expressions qu'on emploie viennent de scènes, de situations qu'on trouve dans la parole de Dieu. Le bouc émissaire, c'est celui qui porte la peine des fois d'autres. On voit ça dans les affaires, on voit ça en politique. On appelle ça des fusibles, des fois. Il y en a qui ont péché, ils ne veulent pas reconnaître leur faute, ben, ils la mettent sur un autre. Ils portent le chapeau, tout un tas d'expressions. Alors, donc sur la base de cet acte de justice, et j'emploie des mots assez forts, de l'exécution de cette ordonnance pénale. Pénal. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Cette ordonnance pénale, sur cette base-là, la justice de Dieu étant satisfaite. Nous parlons souvent de nos droits, j'y reviendrai, mais là, il y a la justice, le droit de Dieu, qui doit d'abord être réglé. La justice de Dieu étant cette fois-ci satisfaite, les péchés, les iniquités de tous pourront être transférés sur cet animal, pour un éloignement total et définitif. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Le psaume 103, le verset 12, confirme ces choses. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous ses transgressions. » C'est donc quelque part un salut, je dirais, en deux temps, excusez-moi l'expression, cause et conséquence, à savoir la cause de notre salut, le motif, ce qui le fonde, la justice de Dieu satisfaite par le sacrifice d'un innocent qui se substitue au coupable et donne la vie. Et puis le deuxième temps, réconciliation, ça c'est le fruit que nous récoltons. Réconciliation des coupables qui méritaient la séparation éternelle avec Dieu, qui leur est révélé de ce fait comme leur Père. Ces deux temps du salut, justice de Dieu satisfaite, bénéfice que, dont nous sommes bénéficiaires par grâce au moyen de la foi, est résumé par Paul dans Romains 3, versets 23 à 27, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du rachat, de la couverture, de l'expiation qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière, et c'est ce que nous résume ce passage, de manière à être juste, selon la justice de Dieu, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et le verset suivant est important. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors peut-être certains se disent, mais Robert, on connaît tout ça par cœur. Alors pourquoi ce rappel ce matin? Parce que l'Écriture nous montre également que notre chair refuse ce sacrifice sanglant. Et je voudrais pour ça qu'on lise dans Matthieu 16 un homme qui, je pense, nous ressemble, un homme de la même chair que nous, Pierre. En Matthieu 16, nous allons lire à partir du verset 20, je ne vais pas lire tout ce passage, beaucoup le connaissent. Jésus a demandé à ses disciples, que dit-on autour de vous que je suis? Alors ils y sont allés chacun un peu de leur version. Et puis après, il y a eu cette question percutante. Et vous, qui dites-vous que je suis? Nous connaissons la réponse de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, etc. Heureux es-tu, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Et alors au verset 20, Matthieu 16, il est écrit ceci. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Programme moins enthousiasmant, moins passionnant pour Pierre le passionné. Et Pierre qui aime son maître sincèrement. Alors Pierre fait une chose, franchement, je pense que plusieurs d'entre nous auraient fait la même chose. Il prend à part Jésus, son maître. Il le prend à part. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il est sûr de son fait. Et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Les droits de l'homme ou le droit et la justice conçus par l'homme. C'est Pierre. Avez-vous vu comment Pierre reprend Jésus? Je crois que nous aurions pu faire la même chose. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas reçu cette circoncision du cœur encore par le Saint-Esprit qui lui révèle la vérité. Il n'avait pas compris qu'il fallait, que Jésus monte à Jérusalem. Il fallait qu'il soit accusé injustement. Il fallait qu'il soit crucifié. Il fallait, on n'aime pas beaucoup ce terme, il faut, il fallait. Jésus savait qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Notre chair considère comme un scandale qu'un juste meure pour des coupables. Et en plus, de quelle manière? Notre chair peut concevoir qu'on aime beaucoup et puis qu'on se donne, et c'est merveilleux, c'est un témoignage, et voilà. Mais qu'un juste meure, soit sacrifié pour des pécheurs que nous sommes, c'est insupportable. Donc pourquoi ce rappel aujourd'hui? Parce que je crois qu'aujourd'hui, les droits de l'homme ont pris une place, et beaucoup parmi nous ici diront « mais c'est bon les droits de l'homme ». Et je suis d'accord, c'est bon les droits de l'homme. Partout où l'homme est bafoué, maltraité, je sais que beaucoup qui ont connu toutes sortes de malheurs, de persécutions, d'injustices, il faut le dire, ont souvent soupiré, par exemple, à venir en Europe. Démocratie, terre des droits de l'homme, quoi que ça mériterait, c'est commenté. Mais je voudrais vous donner un témoignage qui montre un peu où nous en sommes. Je n'ai pas lu dans la presse, nous promenions avec des frères vendredi, près d'un étang. Et puis, il y avait une scène de tournage, avec tout le matériel pour le tournage d'un film. En tout cas, renseignements pris, on s'est approché. Et c'était le tournage d'une bande-annonce pour un, je ne sais plus comment on dit, pour un festival, mais enfin un rassemblement de cinéastes amateurs. Donc c'est une bande-annonce en vue d'encourager des jeunes à réaliser des courts-métrages tournés avec des téléphones portables. Aujourd'hui, il y a des appareils sans doute assez sophistiqués. Et le thème choisi, justement, c'était les droits de l'homme. Alors, une femme qui était là, très, très enthousiaste, très passionnée par son affaire, nous explique que là, il y avait donc quelques scènes très courtes qui allaient tourner pour ce film. Alors, elle nous a expliqué, on n'a rien demandé, mais elle a tout expliqué. Il y avait une intégration sociale réussie pour diverses personnes issues de l'immigration. Il y avait une scène autour du handicap, montrer que le handicap n'empêche pas des réussites, des intégrations, etc. Et très bien. Et puis là, la scène qui était tournée, elle nous dit très, très simplement, eh bien, là, nous allons tourner la scène d'un mariage gay. Elle dit, c'est gay. Et non, mais j'invente rien. Alors, je dois dire, quelque chose en moi n'était pas très bien quand même. Je dis, mais Seigneur, on ne peut pas partir maintenant sans ouvrir la bouche. Nous ne pouvons pas partir, on ne va pas se mettre en difficulté, machin. Et, Seigneur, il y avait vraiment comme quelque chose de difficile. C'était une scène, j'allais dire, de la vie courante. Et surtout qu'elle expliquait, elle dit, mais oui, il faut être ouvert, il faut vraiment, tout est à vivre, et donc c'est merveilleux de pouvoir s'accepter les uns les autres. Et puis, je sentais vraiment une force, quoi. Je me dis, mais Seigneur, tu nous as éclairés. Alors, je note ici, c'est vrai, en moi, mon esprit s'irritait. Et je lui dis, vous développez les droits de l'homme et c'est bien. Et alors il m'est venu ceci, avez-vous considéré les droits de Dieu? Ah oui, le droit des dieux, car il y en a plusieurs, hein, pas de problème. Je dis non, il n'y en a qu'un, c'est le créateur de toutes choses. Ce n'était pas, autant j'aime témoigner, mais il y avait vraiment une force là. Alors il dit oui, oui, vous avez raison, il n'y en a peut-être qu'un créateur, mais chacun l'appelle comme il veut. Oui. Nous n'avons pas été plus loin, je reconnais. Mais voilà la pensée du monde. Aujourd'hui, il n'y a que des victimes, des blessés. Et oui, il y a... Ce monde est un monde d'errance, de beaucoup de malheurs quand même. Et je crois qu'ici, nous sommes là... témoin, je le sais, à travers les vies des uns et des autres, de toute langue, de toute race et de toute nation que nous sommes. Hein, nous sommes bientôt maintenant une trentaine de nations représentées ici. Oui, il y a des victimes. Et nos sociétés parlent beaucoup des droits de l'homme, sans d'ailleurs toujours les respecter. Et dans sa folie, on parle maintenant du droit des animaux, les droits de la nature... Oui, personnification de toutes ces espèces qui sont la création de Dieu, mais qui ne sont pas l'homme, qui ne sont pas à l'image, seul l'homme est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc voilà la pensée du monde, être ouvert, déclarer que tout est bon, tout est équivalent, en tout cas que tout doit être toléré et qu'il n'y a pas à juger quoi que ce soit. Dans le domaine de la sexualité, j'y reviens, parce que franchement, c'est un problème. Cela atteint un sommet actuellement, puisque d'un côté, tout est permis, et il est interdit d'émettre une opinion différente que ce que la loi dit que tout est permis. Confère. Les lois contre l'homophobie, par exemple. Et de l'autre côté, les hommes demandent une protection contre tout ce qui touche les enfants. L'homme, dans sa révolte, dans cette tension, mais folle, folle. Comment peut-on d'un côté dire « tout est permis » s'il y a consentement, au nom de la liberté individuelle ? Et l'on voit descendre d'année en année le seuil dit de majorité. Alors c'est assez curieux d'ailleurs, parce que l'âge légal de la majorité descend, descend, descend. Par contre, la capacité à s'assumer, je ne trouve pas que l'âge descend, descend, descend. Alors, il n'y a pas de hasard, c'est voulu. Ceux qui dirigent, les puissances de mammon qui dirigent, disent dans le fond, tant que les enfants sont à la charge de leurs parents, ils ne sont pas comptés dans les demandeurs, poursuivons les études, les césures, les machins, les trucs, etc. Pendant ce temps-là, on retarde le moment de la rencontre avec la réalité parce que l'activité est bonne pour l'homme. Voilà, je m'arrête là. Mais sur la sexualité, il y a vraiment quelque chose où on voit la folie. Et Romains 1, je reste dans mon sujet, je suis dans mon sujet. Sur les droits de l'homme, la pensée du monde et les droits de Dieu qui sont complètement mis de côté. Romains 1, je dirais juste ce petit passage, un verset, nous dit sur ce conflit qui n'est jamais résolu, 24 à 27, là. Dans ce passage où Paul explique que puisque l'homme sait que Dieu existe, qu'il est le Créateur, ça chaque homme le sait, et qu'il ne le reconnaît pas, il le plonge par étapes dans des ténèbres de plus en plus profondes. Et au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Il a créé homme et femme, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Frères et sœurs, mon propos, il est descriptif de ce qui est aujourd'hui, pas de ce qui va venir, de ce qui est. Et la parole de Dieu est vraie, et voilà où nous en sommes. Les droits de l'homme et les droits de Dieu ignorés. Le droit, je ne vais pas vous faire un cours de droit, je n'ai pas la capacité, mais on voit très bien, si vous regardez sur une période de 50 ans, comment nous sommes passés d'un droit de la responsabilité à un droit des victimes. On ne s'intéresse plus à la responsabilité, mais on s'intéresse à indemniser la victime. C'est une bonne chose que s'il y a un préjudice, on cherche à réparer. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Refuser le droit de la responsabilité, c'est refuser d'être responsable. C'est refuser qu'on a la faute. Le code civil de Napoléon dit « Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le terme de faute est insupportable. Alors, dans la bonté de l'homme, on va protéger toutes les victimes, on va couvrir. Mais à un moment, l'argent manque. Et puis le dévouement. Vous comprenez ces choses ? C'est que il y a le droit de Dieu qui est mis dehors. On ne veut plus. Vous allez me dire, c'est le monde. D'accord. Prenons garde, et si je dis ça ce matin, prenons garde que cette pensée du monde ne vienne polluer notre propre pensée. Ce refus de reconnaître que notre salut passe par la satisfaction de la justice de Dieu, accomplie à travers le sacrifice sanglant d'un homme sans défaut, à la place, principe de substitution, de ceux et celles qui méritaient ce châtiment pour cela même, que cela même puisse être réconcilié avec Dieu, ce refus, dis-je, de considérer cette étape, ce fait, se glisse de plus en plus, y compris dans nos milieux. Et nous parlons du besoin des hommes de connaître l'amour de Dieu, d'avoir la révélation de la bonté de Dieu, ce qui est vrai, ce qui est exact, ce qui est effectivement à rechercher, mettant de côté le prix payé, la nature de la transaction. Christ est mort pour des pécheurs, tous ont péché, même si notre désobéissance n'est pas celle d'Adam, pas un n'est juste. Nous sommes de la même nature, frères et sœurs, que Pierre, et sujets aux mêmes faiblesses qui se cachent derrière de bons sentiments. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais cela est arrivé. Et ce fait est notre salut. Nous disons, restons ensemble avec notre bonne volonté, notre sincérité, notre désir d'être bien avec tout le monde, même si la vérité en souffre. Dieu est bon, il aime tous les hommes. Amen. Il comprend tout. Oui, il sait tout. L'amour supporte tout, oui. Mes frères et sœurs, ce Dieu d'amour, il permettra que des hommes soient séparés de lui pour l'éternité, une existence sans fin. Et ça, c'est insupportable à la chair, mais c'est la parole de Dieu quand même. Et donc nous ne pouvons la recevoir, cette parole, que lorsque l'Esprit de Dieu nous éclaire et que nous avons capitulé sur ces faits. Dieu est bon, il aime tous les hommes, il comprend tout, oui, mille fois, mais Dieu est toujours aussi saint et il n'a pas changé le protocole pour venir à lui. Il m'est venu, il y a un chant qu'on chante régulièrement, que je partage, c'est, vous savez, ce chant sauve avec puissance. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours créateur du salut, je dirais aussi acteur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens, remplis ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois et je me soumets. Resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité Jésus. Resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. C'est vrai. C'est vrai, tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Mais je mettais un parallèle avec un autre chant que nous chantons également, et c'est bien. Il ne dit pas tout à fait « prends-moi tel que je suis ». Il dit « tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. » Tel que je suis, c'est vrai, Père, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer, Sauveur parfait, Agneau de Dieu, je viens. Oui, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Il a éloigné au loin nos transgressions. Par le sang versé. Frères et sœurs, je voudrais qu'on soit encouragé. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Aussi, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et cette prédication apostolique de Paul et de ses compagnons, c'est d'annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, folie pour notre siècle grec. Je parle de l'Europe, mais plus largement. Frères et sœurs, je veux nous encourager. Il a été crucifié. Nous avons été crucifiés avec lui. Il a été mis au tombeau. Nous avons été faits une même plante avec lui dans sa mort. La puissance de Dieu a été manifestée par la résurrection de Christ, car il était impossible que les liens de la mort ne le retiennent. Nous étions morts dans nos péchés. Il nous a ressuscités aussi avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il a souffert, connu l'ignominie, et il règne désormais assis à droite du Père. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Tout cela est vrai pour chacun de ceux qui ont mis en lui sa confiance. Et cela est vrai pour son Église. C'est par le scandale de la croix que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen.